18h, c'est donc l'heure du journal. Journal présenté, elle s'y prépare depuis longtemps par Véronique Robérotte. Bonsoir Véronique.
Bonsoir, je suis prête. La commission électorale a tranché au Gabon. Elle déclare Ali Bongo vainqueur de l'élection présidentielle avec 49,8% des suffrages. Deuxième septennat pour le président sortant, opposé au l'ex-patron de l'Union africaine, Jean Ping. Les représentants de l'opposition parlent d'une élection volée. Des risques de violence sont à craindre dans le pays. Nous irons à Libreville. Au Brésil, fin de partie pour Dilma Rousseff. La présidente du Brésil vit ses dernières heures à la tête du pays. Les sénateurs brésiliens sont actuellement en réunion à Brasilia pour voter sa destitution. Dilma Rousseff est accusée d'avoir maquillé des comptes publics. Elle devrait, sauf coup de théâtre énorme, être définitivement écartée du pouvoir. Ce soir, Anne Vigna nous appellera de Brasilia. Qui de Washington ou de Moscou est responsable de la disparition d'Abu al-Annani? Les États-Unis et la Russie se disputent la paternité de la mort de celui que l'on surnommait le ministre des attentats de l'État islamique. Bruno Cadet nous dira tout. De nouveaux ennuis pour les projets d'EDF en Angleterre. 5 administrateurs de l'électricien représentant les salariés ont engagé une procédure auprès du tribunal de commerce de Paris. Ils veulent obtenir l'annulation du feu vert donné à la construction de 2 réacteurs nucléaires de type EPR à Hinkley Point. Un chantier d'environ 21 milliards d'euros dont certains administrateurs craignent qu'il ne plombe les comptes d'EDF, analyse d'Annabelle Grelier. Ils seront finalement 4 candidats à se présenter à la primaire d'Europe Écologie Les Verts. Cécile Duflot, Karima Deli, Michel Rivasi et Yannick Jadot ont recueilli le nombre de parrainages nécessaires pour se présenter à la primaire du Parti écologiste en octobre prochain et tenter de sortir le parti d'une passe difficile, nous dira Christine Moncla. Enfin, la mort de l'un des plus grands photographes de presse. Marc Ribou s'est éteint hier à l'âge de 93 ans. Ses clichés ont immortalisé les tournants du XXe siècle. Nous entendrons Marc Ribou à la fin de cette édition. Il avait souvent été l'invité de France Culture. Pas de fin de règne pour la famille Bongo au pouvoir depuis près de 50 ans. Ali Bongo vient d'être déclaré vainqueur de l'élection présidentielle au Gabon. La commission électorale a tranché en faveur du président sortant, réélu donc pour un deuxième septennat. Jean Ping, son adversaire, ex-baron du régime d'Omar Bongo, parle ce soir d'élections volées, laissant craindre des troubles dans le pays. À Libreville, la correspondance de Sébastien Nemeth.
Oui, effectivement, le ministre de l'Intérieur vient de donner ses résultats finaux à l'instant, il y a quelques minutes. Résultats fournis donc par la commission électorale. Ali Bongo Ondimba, le président sortant, est réélu avec 49,80%. Son adversaire, Jean Ping, termine deuxième avec 48,23%, un taux de participation de 59,46%. La clé de ce scrutin, c'est le Haut-Ogooué, présenté comme un fief d'Ali Bongo, le chef de l'État, qui remporte là-bas 95,46% avec un taux de participation de 99,93% des résultats contestés par l'opposition. Cet après-midi, il y a eu un litige très important au sein du bureau de la CENAP, qui est l'instance décisionnaire de cette commission électorale. Il y a eu un vote et les membres de l'opposition se sont abstenus, mais le vote a été validé et il a amené donc à cette déclaration du ministre de l'Intérieur très très rapidement, environ une petite heure après cette réunion du bureau.
Pour Marie-Josée Biloa, directrice du magazine Africa International, pas de doute, il y a eu fraude dans ces élections. Elle répond au téléphone à Bertrand Galichet.
La commission électorale gabonaise, elle est contrôlée par Ali Bongo. Les PV d'une des provinces, notamment celle où Ali Bongo l'aurait emporté, ont été de toute évidence répatriés. Il y a beaucoup de contestations.
Le résultat qui est présenté par la commission électorale est un résultat assez serré. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça?
Ali Bongo n'a pas eu le temps de faire mieux. Les gouverneurs des différentes provinces ont publié les résultats partiels. Et partout, Jean Ping était en tête, sauf sur le Haut-Ogooué, qui est le département d'origine d'Ali et où tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse un bon score. Il a donc retenu jusqu'à la dernière minute les résultats de cette province et prétend qu'il avait eu 99% pour tenter de rattraper le retard. C'est tout ce qu'il a pu faire dans la précipitation.
Et c'est pour ça que l'Union européenne demande la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote?
Exactement. Si on publie les résultats de cette manière, ce sera très difficile de frauder, de passer en force.
Voilà, des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants criant « Ali doit partir » ont éclaté ce soir à Libreville, juste après l'annonce officielle de la réélection donc du président gabonais Ali Bongo. Les heures de Dilma Rousseff à la tête du Brésil sont désormais comptées, sauf énorme coup de théâtre, fin d'un long feuilleton pour la présidente brésilienne accusée d'avoir maquillé des comptes publics et dont le destin est actuellement entre les mains des sénateurs. Il faut 54 voix sur 81 contre elle, donc pour la destituer. Et selon toutes les projections, près d'une soixantaine de sénateurs devraient voter contre la présidente. Anne Vigna suit pour nous ce vote historique à Brasilia.
Des questions juridiques ont encore été soulevées ce mercredi au début de la séance historique qui s'est ouverte au Sénat il y a 2 heures maintenant. Mais le président de la Cour suprême n'a pas interrompu la séance et le vote vient bien de commencer. C'est la 6e journée de ce procès qui restera dans l'histoire comme une procédure juridico-politique hautement controversée. D'une part, l'accusation est fragile. Les fameuses manœuvres budgétaires à l'origine de la chute de Dilma Rousseff ont été pratiquées par tous ses prédécesseurs et encore par 17 gouverneurs cette année. D'autre part, 47 des sénateurs qui jugent la présidente sont actuellement enquêtés pour corruption et enrichissement personnel. Les Brésiliens se sont dans l'ensemble résignés à la fin du Parti des Travailleurs au pouvoir depuis 13 ans. Le parti a notamment perdu beaucoup de crédibilité à cause de son implication dans le scandale de corruption de Petrobras et la récession économique qui dure depuis plus d'un an. Ce mercredi, les chiffres du PIB montrent un nouveau recul de 0,6% au second trimestre. Au vu des débats au Sénat, il est apparu évident que la présidente était plus destituée pour ses mauvais résultats économiques et sa perte de popularité que pour avoir réellement commis un crime. La vingtaine de sénateurs qui vont voter contre sa destitution vont très probablement répéter aujourd'hui qu'il s'agit donc d'un putsch parlementaire réalisé contre le vote populaire qui avait élu la présidente en octobre 2014.
Et dans la foulée, Michel Temer sera intronisé président du Brésil pour 2 ans et s'envolera ce soir même pour la Chine et le sommet du G20. À défaut de ratifier d'ailleurs l'accord de Paris sur le climat, la Chine a déjà fermé de nombreuses usines polluantes. De la ville de Hangzhou, dans l'est du pays, fermeture de circonstances. Les grandes ce monde qui participent dimanche et donc lundi prochain au G20 à Hangzhou respireront ainsi un peu mieux et bénéficieront d'un ciel un peu plus bleu. Les habitants de Hangzhou sont eux invités à quitter la ville pendant le G20 pour réduire les embouteillages et faciliter les déplacements du chef d'État. La pollution et les embouteillages monstres reprendront leurs droits donc dès mardi prochain quand ceux qui sont censés prendre des mesures contre la pollution sans jamais la subir, auront quitté les lieux. Qui de Washington ou de Moscou est responsable de la disparition d'Abou al-Adnani? Les États-Unis et la Russie se disputent la paternité de la mort de celui que l'on surnommait le ministre des attentats de l'État islamique, appelant notamment à tuer des Français par n'importe quel moyen. Il a été tué hier dans le nord de la Syrie par une frappe aérienne, tir américain ou russe. Moscou n'entend pas se faire voler, si j'ose dire, sa prise de guerre, Bruno Cadenne.
C'est pas eux, c'est nous. Le Kremlin revendique la paternité de la mort d'Abou al-Adnani, le numéro 2 du groupe État islamique, que les États-Unis s'étaient dans un premier temps approprié. Dans un communiqué, Moscou affirme que c'est bien une frappe aérienne russe qui a tué le chef terroriste. Et l'armée russe de donner des détails, il s'agirait d'une frappe aérienne d'un chasseur bombardier tactique Sukhoi Su-34. La frappe a visé un groupe d'une quarantaine de combattants à proximité du village de Maharat Oum-Aouch dans la province d'Alep. Sauf que hier, le Pentagone avait le premier revendiqué la paternité de la mort d'Al-Adnani en donnant également des précisions. Il s'agissait dans la version américaine d'une frappe ciblée qui avait eu lieu dans la ville d'Al-Bab, toujours près d'Alep. Ce n'est pas la première fois que Moscou et Washington se disputent sur un fait de guerre en Syrie. Déjà fin 2015, lorsque les États-Unis visaient les camions-citernes de pétrole de contrebande de Daesh près de la frontière turque, la Russie avait annoncé avoir détruit par ses bombardements les convois pétroliers du groupe terroriste. La Russie intervient en Syrie depuis la fin septembre 2015 en aide au régime de Bachar al-Assad. Et les Occidentaux et l'opposition syrienne l'accusent de concentrer ses attaques presque exclusivement sur les forces rebelles et de ne pas réellement bombarder le groupe État islamique. Régulièrement, Moscou met donc en avant avec certaines opérations contre Daesh, histoire de prouver à l'opinion internationale qu'elle n'est pas en Syrie que pour sauver son fidèle allié de Damas.
Merci Bruno. Un embarquement sous des airs de salsa, la compagnie aérienne JetBlue a lancé tout à l'heure le premier vol commercial régulier entre les États-Unis et Cuba. Ils étaient suspendus ces vols depuis 1961. L'avion a décollé de Floride dans une ambiance festive. 110 vols quotidiens sont autorisés entre les deux pays, conséquence de leur récent rapprochement. Des administrateurs d'EDF représentant des salariés saisissent la justice pour obtenir l'annulation de la décision du groupe EDF d'investir dans le projet de construire donc deux réacteurs nucléaires de type EPR à Hinkley Point en Grande-Bretagne. Un projet évalué à 21 milliards d'euros, approuvé de justesse fin juillet par le conseil d'administration d'EDF. Plusieurs administrateurs estiment que ce projet pourrait mettre en péril les finances d'EDF alors que plusieurs chantiers EPR en France, à Flamanville ou à l'étranger, rencontrent de nombreux déboires et retards. Annabelle Grelier, bonsoir.
Bonsoir Véronique.
Qu'est-ce qui motive cette démarche en justice de ces cinq administrateurs ?
Bon, il s'agit d'une démarche initiée par cinq administrateurs, vous l'avez dit, des administrateurs salariés, trois parrainés par la CGT, un par Force ouvrière et un autre par la CFE-CGC. Ils ont saisi la justice sur deux points précis. Ils estiment tout d'abord que le PDG du groupe, Jean-Bernard Lévy, n'a pas communiqué des informations essentielles en sa possession concernant le projet d'Hinkley Point au moment de la réunion du conseil d'administration. C'était le 28 juillet dernier. Et notamment sur le délai de délibération. Le PDG souhaitait un vote rapide pour le lancement du projet, arguant que les Britanniques voulaient une réponse urgente. Or, Londres, post-Brexit, avait fait savoir qu'il ne prendrait pas de décision avant l'automne. Deuxième point litigieux, selon les cinq administrateurs, et sans doute le plus sérieux, la composition du conseil d'administration d'EDF le jour du vote. Au moins trois membres leur semblent en situation de conflit d'intérêts. Christian Massé, le secrétaire général du Quai d'Orsay, est membre du conseil d'administration d'Areva, Colette Lévinaire, membre du conseil d'administration de Bouygues, et Philippe Crouzet, qui lui siège au conseil d'administration de Vallourec. Areva, Bouygues et Vallourec, trois groupes industriels, on ne peut plus intéresser par les marchés liés à ce chantier gigantesque de 21 milliards d'euros. Ces deux questions seront plaidées devant le tribunal de commerce de Paris. Une date d'audience sera fixée le 5 septembre. Par ailleurs, un autre recours en justice, initié cette fois par le comité central d'entreprise d'EDF, sera plaidé lui le 22 septembre. Objectif des syndicats, retarder le lancement de ce projet qu'ils jugent précipité et périlleux pour les finances d'EDF.
Merci Annabelle. Toutes les activités portuaires sont à l'arrêt au Havre depuis ce matin. Le blocage par la CGT fait suite à l'interpellation à l'aube de deux dockers à leur domicile. Ils ont été arrêtés dans le cadre des investigations concernant les violences lors de la manifestation à Paris le 14 juin dernier. Cette double arrestation survient le jour de l'avenue au Havre de Philippe Martinez, numéro 1 de la CGT, pour l'âgé de rentrée du syndicat. Le délégué, lui, CGT, été accusé d'avoir pris part à l'épisode de la chemise arrachée à Air France, a lui reçu aujourd'hui sa lettre de licenciement. La SNCF a choisi Alstom. Dans une semaine, l'État et la SNCF annonceront qu'ils choisissent l'un des champions tricolores du secteur des transports, Alstom, pour imaginer le train à grande vitesse de demain. Tout en ne garantissant pas de futures ventes de TGV, ce partenariat d'innovation est une excellente nouvelle pour l'emploi en France, pour les usines d'Alstom, notamment les sites de La Rochelle et de Belfort. À Belfort, justement, la correspondance de Nicolas Willem.
Cet accord est bien accueilli, évidemment, par les syndicats, mais il reste très prudent. On ne sait pas encore si ces TGV du futur seront fabriqués à Belfort ou non. Pour la CGT et son délégué Pascal Novelin, c'est pourtant l'avenir du site belfortin qui est en jeu.
Est-ce que, une fois qu'on aura conçu ce TGV, il y aura de la fabrication à Belfort? Lorsqu'on demande à nos directions, quand on parle dans nos réunions, de la fabrication telle des locomotives, sur quel site sera fait, on n'a pour l'instant aucune réponse. En 2019, on termine les derniers TGV, ce qui veut dire qu'on n'aura plus rien à faire.
Si Belfort n'obtient pas ce marché, le site risque de mourir, insiste le délégué CGT. Son collègue de la CFDT, lui, espère que les commandes n'arriveront pas trop tard, car le site historique d'Alstom, rappelle Olivier Koller, va connaître une baisse de charges importante dès la fin 2017.
Ce qu'il faut, nous, c'est qu'on ait une garantie de fabrication des futurs trains à Belfort et que Alstom nous garantisse aussi que l'établissement de Belfort va continuer à fabriquer des motrices TGV et des locomotives classiques.
Un marché pour la construction de 44 locomotives vient de passer sous le nez d'Alstom au profit d'une société allemande. Le constructeur va fabriquer 28 rames pour la ligne TGV Boston-Washington, mais aucune à Belfort. Les syndicats ne digèrent pas et une nouvelle désillusion serait très malvenue.
C'est the place to be, c'est l'endroit, le lieu où il fallait être pour les candidats de droite à la primaire. L'université d'été du MEDEF a joui en Josas. Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Bruno Le Maire, François Fillon y ont fait un détour aujourd'hui pour tenter de convaincre les patrons sur leur projet économique avec des envies communes. Tout de même, supprimer l'impôt sur la fortune, en finir avec les 35 heures, relever l'âge légal de la retraite et diminuer le nombre des fonctionnaires. Ils n'y ont pas croisé donc Emmanuel Macron, ex-ministre de l'économie, qui avait prévu de se rendre sur place. C'était avant sa démission hier du gouvernement. Ils auraient pu aussi y parler ensemble de libéralisme économique et de la difficulté de réformer la France. Emmanuel Macron y aurait croisé aussi l'un de ses mentors, le sénateur maire de Lyon, Gérard Collomb, l'un de ses plus fidèles soutiens et pas le seul à l'avenir à en croire, Gérard Collomb, au micro de Stéphane Robert.
Il a beaucoup de parlementaires, beaucoup d'élus locaux et je dirais des deux camps. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de gens qui, à gauche, s'interrogent, des gens du centre-droit qui, eux aussi, s'interrogent. Et alors, immensément plus, qui jusque-là n'avaient rien à faire de la politique et qui se disent, peut-être, je râle tout seul dans mon coin, c'est le bon moment pour essayer de changer. Vous voyez, je pense que dans le mois qui vient, on verra ce qui va se passer. Soit le président de la République continue à être dans les sondages au niveau où il est, soit il retrouve la confiance des Français. S'il retrouve la confiance des Français, il sera évidemment candidat. Mais s'il stagne et si au contraire Emmanuel Macron monte dans les sondages, il y a beaucoup de gens au Parti Socialiste qui diront finalement le bon candidat c'est Macron et c'est lui qu'il faut soutenir.
Ils sont finalement quatre candidats à en avoir marre, disent-ils, des divisions au sein du parti Europe Écologie Les Verts. Cécile Duflot, Karima Delli, Michel Rivasi et Yannick Jadot ont recueilli le nombre de parrainages nécessaires pour se présenter à la primaire du Parti écologiste en octobre prochain. L'un des quatre aura la difficile tâche de mener la campagne présidentielle d'un parti terriblement affaibli avant une échéance électorale qui ne l'aura, Christine Monclat, jamais vraiment réussi.
En effet, ils n'ont jamais fait plus de 5,25%, c'est-à-dire avec Noël Mamère en 2002. Et cette fois-ci, de surcroît, les écologistes, éprouvés par une année de déchirement et de défaite électorale, avaient tout sauf envie de cette primaire interne, persuadés qu'ils allaient pouvoir être représentés par Nicolas Hulot. Mais celui-ci ayant donc renoncé, ils sont quatre à se disputer la place de candidat, avoir obtenu assez de parrainage. La date limite était aujourd'hui. Il y a donc Cécile Duflot, ex-ministre, qui se place d'emblée en adversaire direct de François Hollande et de Manuel Valls, tandis que Yannick Jadot, eurodéputé, se présente lui comme celui qui va rénover la ligne politique du parti. Il y a aussi Karima Delli et Michel Rivasi qui, elles, se présentent comme celles qui veulent replacer l'écologie militante au cœur du projet. Alors la plus jeune, l'eurodéputée Karima Delli, est en pleine ascension au sein du mouvement. Elle milite, elle, pour une écologie plus populaire. Michel Rivasi, également eurodéputé, est certainement la plus technique d'entre eux, très bonne connaisseuse de dossiers épineux comme le nucléaire ou les conflits d'intérêts dans la santé. Elle a assez peu de réseau en interne et elle appelle les militants associatifs à coécrire un programme avec elle. Yannick Jadot, qui est un ancien dirigeant de Greenpeace, possède lui un avantage mathématique sur ses concurrentes, si l'on en croit les résultats du dernier congrès fédéral d'Europe Écologie Les Verts. Mais c'est quand même toujours l'entourage de Cécile Duflot qui tient les manettes du parti.
Rameau, Christine, de l'organisation du calendrier de cette primaire.
Alors, elle aura lieu fin octobre, mais tout n'est pas encore défini. Donc déjà, l'ampleur du corps électoral devra-t-elle être ouverte aux adhérents, aux sympathisants ou à tout le monde? Coûtera-t-elle 1 ou 10 euros par votant? Sera-t-elle à 1 ou 2 tours? Eh bien, toutes ces questions ne semblent même plus intéresser leur ancienne patronne, devenue ministre, Emmanuelle Cosse, qui a méchamment enterré cette primaire verte ce matin en annonçant qu'elle soutiendrait François de Rugy, un candidat écolocentriste qui se présente lui à la primaire organisée par le Parti Socialiste.
Merci Christine Monclat. Le festival du photojournalisme Visa pour l'image de Perpignan rendra ce soir un hommage au photographe Marc Riboud, grand reporter de presse. Marc Riboud, ancien de l'agence Magnum, s'est éteint à l'âge de 93 ans. Marc Riboud qui disait lui-même qu'il photographiait comme un musicien chantonne. De son métier, il avait souvent parlé sur notre chaîne, comme là en 2010 avec Laure Adler. C'était dans l'émission Hors Champ. Extrait.
Moi, je pense que la photographie, quand on aime ça, c'est une question vraiment de tout l'être. Comment on a l'œil, comment on a le cœur, comment on a les différents sentiments qui peuvent émerger. Parce que, et puis le reste, c'est quelque chose de clic, un déclic qui se passe, si on ne sait pas. Parce qu'il faut vous dire que le fameux decisive moment, le moment décisif, c'est très vrai. C'est un moment, on n'en a pas d'autres, quelquefois, pendant un long moment, stock. Et c'est le concours de gens qui marchent, quelqu'un qui rêve, quelqu'un qui est sous l'emprise de sentiments curieux. Et Il faut observer, regarder. Et ça, c'est passionnant parce que quand on s'aperçoit, quand on cherche quelque chose et qu'on sent qu'on l'a trouvé, alors c'est le grand bonheur.
Voilà, vous pourrez écouter sur franceculture.fr plusieurs séries d'entretiens dans les émissions à voix nue et hors champ, donc avec Marc Ribou. Le temps demain jeudi, 1er septembre, comme les profs aujourd'hui, les élèves rentreront en classe sous un grand ciel bleu, dégagé, ensoleillé, où qu'ils se trouvent en France, il fera chaud à l'extérieur et peut-être même dans les classes. Les températures maximales seront comprises entre 23 et 31 degrés, 23 à Nantes, 25 à Paris et 31 à Nice.